RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité, Guillaume Pelletier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Loir-et-Cher et vice-président des Républicains. Alors, amitié, soutien des Républicains envers Nicolas Sarkozy en garde à vue. Donc aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, des soupçons pèsent sur lui à propos d'un éventuel soutien financier de la part de Kadhafi pour la campagne de 2007. Alors, est-ce le temps de la clarification, ou comme certains, vous criez à l'acharnement?
Moi, je dis surtout, avec une constance dont personne ne pourra m'enlever, oui. J'ai toujours eu un agacement profond sur l'américanisation des sociétés européennes et des sociétés françaises en particulier. Et qu'est-ce qui fait l'originalité du droit français?
Qu'est-ce que vous appelez l'américanisation?
Alors justement, qu'est-ce qui fait notre originalité et notre honneur dans le fonctionnement de la justice? C'est deux piliers fondamentaux, le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Ça vaut d'ailleurs pour tout le monde.
Le secret de l'instruction, il n'est pas toujours...
Mais je le regrette, ni le secret de l'instruction, ni la présomption d'innocence ne sont respectés dans notre pays. C'est un tort, c'est une faute, et ça jette en pâture de manière assez régulière des responsables politiques, des responsables économiques, des anonymes aussi. Et je le regrette parce que c'est ce qui fonde l'originalité pluréséculaire d'ailleurs, oui. et consacrée par la Révolution.
Aucun homme politique n'a demandé à ce que Nicolas Sarkozy aille direct à la casse-prison. J'ai pas entendu.
Non, mais vous remarquerez depuis ce matin, oui, le nombre d'émissions spéciales ou de commentaires, oui, plus ou moins précis de gens plus ou moins connaisseurs du dossier. Donc je ne parlerai pas du dossier, je ne le connais pas.
Ouais, mais sur l'image, parce qu'il reste qu'aujourd'hui, il y a un ancien président de la République, qui est l'ancien chef de votre famille politique, qui est en garde à vue. C'est une image forte.
Oui.
Sur ce point-là, vous n'avez rien à dire?
Je trouve que 5 ans après l'ouverture d'une information judiciaire d'une part, et plus de 10 ans après les faits présumés, gardé à vue un homme de la stature de Nicolas Sarkozy, c'est particulièrement choquant et ça vise probablement à humilier. Mais Nicolas Sarkozy, je le connais, et dans ce moment qui doit être difficile pour lui, je lui renouvelle encore plus qu'à l'habitude et mon affection et mon soutien.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, tout de même, puisque vous le dites vous-même, ça fait des années que c'est le sparadrap du capitaine Haddock qui lui colle à l'orteil, est-ce que c'est pas le moment de la clarification, de savoir...
Mais la clarification de quoi?
Parce que les doutes persistent depuis années. La justice va trancher.
Il n'y a pas un téléspectateur honnête, il n'y a pas un journaliste honnête, il n'y a pas un homme politique honnête qui peut croire une seule seconde... Non mais, qui peut croire une seule seconde que tout cela est vrai, d'une part. Deuxièmement, vous voyez bien que vous parlez de clarification, on est dans la tergiversation, l'embrouillamini. Tout le monde commente quelque chose qu'il ne connaît pas.
C'est vrai.
Et c'est ça qui est préoccupant. C'est-à-dire que la justice fasse son travail, c'est très bien, c'est très important, dans tous les domaines. Vous savez, moi j'ai eu deux sujets dont j'avais à traiter en tant que porte-parole de Nicolas Sarkozy 2011-2012. Je me souviens d'Éric Woerth. Pendant 4 années, dont l'honneur fut jeté aux chiens, pour finir totalement lavé de tout soupçon. C'est-à-dire, à ce point, accablé et puni par la vindicte politique et médiatique, pour à la fin être blanchi. Et Nicolas Sarkozy, dans une autre affaire, l'affaire Bettencourt, pour laquelle il a bénéficié, là encore, d'un non-lieu absolu. C'est donc pour dire, avec ma logique, ma sincérité et ma constance... C'est tout cela, c'est beaucoup de bruit pour rien.
Parce que vous êtes convaincu que ça va aussi aboutir à un non-lieu, cette affaire-là.
En tout cas, il est
très... En fait, logique, puisque vous avez dit qu'aucun honnête homme ne peut penser que ce soit vrai.
C'est ma conviction.
Vous vous inscrirez automatiquement comme un malhonnête homme si vous aviez le moindre doute.
C'est ma conviction personnelle, tirée de mon expérience. J'ai vu trop d'affaires dites politico-judiciaires pour lesquelles on jetait la réputation d'un homme ou d'une femme comme ça à la vindicte, pour qu'à la fin... En quelques lignes, en quelques phrases ou en quelques secondes, on annonce pour cette personnalité un non-lieu, c'est-à-dire que la justice reconnaissait son innocence. Eh bien, si la justice doit condamner, qu'elle condamne, si elle doit innocenter, qu'elle innocente, mais qu'à aucun moment elle n'ouvre ses portes, ni aux commentaires politiques, ni aux commentaires médiatiques. C'est une position, je pense, de sagesse, et que l'ensemble des responsables politiques de la nouvelle génération, nous devrions rappeler pour refonder le pacte républicain et le fonctionnement de notre système judiciaire.
Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui Nicolas Sarkozy pour vous, pour les Républicains ? Est-ce que c'est encore une forme d'autorité ? Est-ce que c'est une figure tutélaire ? Est-ce que c'est une espèce de recours permanent, éventuel ?
Pour moi, c'est le dernier qui a réussi. Il a été élu président de la République en 2007, dans une campagne qui fut sans doute la dernière grande campagne enthousiasmante de la Ve République, et pour lui, et pour Madame Royal, et pour Monsieur Bayrou, soyons honnêtes, qui passionna les Français. Il a engagé des réformes inédites depuis des décennies.
Quoi,
je pense par exemple à cette réforme si populaire, dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure, les heures supplémentaires défiscalisées, ouais. 9 millions de Français qui ont vu concrètement leur pouvoir d'achat augmenter malgré la crise financière et bancaire. C'était très courageux, c'était une promesse de campagne, immédiatement tenue à l'été 2007, applicable dès janvier 2008, et pour laquelle tous les Français ont vu très concrètement les effets, bien loin des effets d'annonce de M. Macron, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État, et on a besoin de son expérience, on a besoin de son autorité, bien entendu.
Alors, on va parler du Front National, lors des législatives partielles, Marine Le Pen a appelé à voter pour le candidat des Républicains. Est-ce qu'à force de toquer à la porte, elle va finir par s'ouvrir chez les Républicains ?
Certainement pas, c'est la raison pour laquelle, sans doute, et le système médiatique d'une part, et Madame Le Pen d'autre part, essayent de frapper de plus en plus fort. De frapper de plus en plus fort parce que notre position est d'une simplicité et d'une clarté, vous parliez de clarification, totale. Ni Laurent Wauquiez, numéro 1 du parti, ni Virginie Calmels, numéro 2, ni votre serviteur, numéro 3 du parti, et l'ensemble de l'équipe dirigeante, nous ne souhaitons et nous nous souhaiterons d'accord avec le Front National. Mais nous revendiquons dans le même temps, comme dirait le président de la République, la volonté de nous...
Pourquoi êtes-vous dans cette position d'intransigeance absolue à l'égard du Front National ? Il y a objectivement aujourd'hui des sujets sur lesquels il y a une très grande proximité entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. De quoi ça relève ? Compte tenu en plus, votre passé, vous avez été, c'est vieux maintenant, mais enfin vous avez été au Front National de la Jeunesse, vous avez été aux côtés de Bruno Maigret, et vous avez été ensuite longtemps aux côtés
de Frédéric Rivière.
Alors vous avez dit justement, c'est parce que vous connaissez le mal qu'il faut aujourd'hui s'en garder.
Ben voilà, vous avez la réponse à votre question, donc c'est heureux.
Oh, désolé.
ça fait 10 ans que je suis chez les Républicains.
Oui.
J'ai eu un parcours de jeunesse que j'assume, qui est d'ailleurs très révélateur de ce que pensait une grande partie de la jeunesse de notre pays, puisque 26% des jeunes, je le rappelle, en 1995, votaient, par exemple, pour Monsieur Le Pen.
Pourquoi étiez attiré par le Front National à cette époque ?
Oh, j'avais une révolte excessive et caricaturale, comme on peut l'avoir à 18 ou 20 ans, face à un système politique qui n'avait tenu aucune de ses promesses. On sortait des années Mitterrand qui avait promis de relever le peuple et de s'adresser aux petits et aux oubliés, dont j'avais l'impression de faire partie compte tenu de mon éducation, de ma famille, et je voyais bien que rien ne venait ou n'était venu et qu'au contraire le chômage par exemple avait explosé. C'était à l'époque des guerres fratricides entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, et on ne peut pas dire donc que la gauche et la droite offraient un visage très appétissant.
Alors aujourd'hui,
il n'empêche qu'avec le temps qui passe, parce que j'ai connu ces excès et ces caricatures, j'ai bien compris que les solutions, pour reprendre le mot de Laurent Fabius, que propose le Front National ne sont pas des solutions raisonnables. Je vais vous donner 3 exemples. L'Europe est en crise. Est-ce que pour autant il faut sortir de l'euro et de l'Europe ? Avec Laurent Wauquiez, nous ne le pensons pas. Différence
mais le
majeure.
Le Front National a évolué sur ce sujet.
C'est pas vrai. Non, sur l'euro et sur l'Europe, ils sont pour une sortie de l'Union Européenne et une sortie de l'euro.
Enfin, rappelez-vous que Laurent Wauquiez avait applaudi au Brexit.
Oui, mais attendez, c'est autre chose. Oui, que les peuples. Boris Lavallot l'a dit à ma place tout à l'heure, avec beaucoup de lucidité et de franchise, et il a raison, et je le pense comme lui. On peut continuer à dire que les populismes n'existent pas. On peut continuer à dire que le Brexit c'est atroce, que la montée du populisme en Italie, en Allemagne et partout dans l'Europe c'est atroce. et dire, bah, puisque c'est atroce, on continue et on fait pire. Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Donc, nous, ce que nous pensons, c'est qu'on a des différences, je réponds à votre question, majeures avec le Front National sur l'Europe, majeures sur la préférence nationale. Ça n'est pas notre vision de la société française. Nous, c'est une la valeur à laquelle nous croyons, c'est la valeur du mérite, quel que soit son statut social, la couleur de sa peau, son origine ethnique ou ses convictions religieuses. C'est important quand même comme différence. Et enfin, et je mets cet argument comme point final, le Front National a choisi une stratégie politique qui est celle du bavardage, du commentaire ou de la critique. La critique est facile, l'art est difficile en politique. C'est beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus enthousiasmant d'essayer d'aboutir à des propositions et des solutions crédibles pour changer et améliorer la vie des gens. Et donc, plutôt que d'opposer la société française, disons les choses, posons des constats courageux. J'ai noté pour le coup que M. Vallaud avait du mal à poser un constat courageux sur la montée, par exemple, de l'islamisme radical, qui est une réalité incontestable et que nous devons aborder avec beaucoup de fermeté. Mais vous voyez qu'il y a des différences
fond, vous dites que
très claires.
Le FN reste d'abord un parti contestataire
et
n'a pas fait sa mutation vers un
parti. Absolument pas. Et d'ailleurs, notre le défi, et je crois que la gauche, j'espère pour elle, porte le même, c'est que quand le Front National fait 20-25%, c'est que la droite et la gauche n'ont pas su répondre à un certain nombre de questions. Et nous voulons être leur invoqués, nous, à l'inverse des prédécesseurs, sauf Nicolas Sarkozy, qui fut le seul à réduire le Front National en 2007. Nous voulons parler à tous les Français, y compris ceux qui votent Front National, parce que les électeurs du Front National ne sont pas des électeurs ou des citoyens de seconde zone, contrairement à ce que pense une trop grande partie de la classe politique française.
Est-ce que s'il y a une modification du mode de scrutin, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les autres pays européens, l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que le mode de scrutin l'aurait plus favorable que chez nous, est-ce qu'à un moment, cette alliance, elle ne va pas s'imposer à vous?
Mais quand on fait de la politique, il y a deux façons d'en faire. Où on voit la politique à l'aune des partis, des alliances partisanes ici ou là. Moi, c'est pas ma vision.
L'objectif, c'est de gagner quand même, non?
Ah oui, et on gagne comment? On gagne en ayant le soutien d'une majorité des Français. Vous connaissez très bien le rapport qu'entretiennent les Français avec la politique. Amour, haine, illusion, désillusion. Ce qu'ils attendent des partis politiques, qu'ils respectent, c'est qu'il trace une perspective, porte une vision et apporte des solutions crédibles. À partir de cet instant, croyez-vous que Nicolas Sarkozy, qui l'emporta nettement en 2007, fit des alliances avec qui que ce soit? Bien sûr que non. Il incarna par ce qu'il représentait, par les propositions et le projet qu'il portait, par les réussites qui furent les siennes en amont, il incarnait une vision pour le peuple français. Et vous pensez bien qu'en 2007, des électeurs qui avaient choisi dans le passé Monsieur Jospin, Monsieur Besancenot, Monsieur Le Pen, à l'époque, ou Monsieur Bayrou, ont fait confiance en Nicolas Sarkozy. Le pari que nous faisons avec Laurent Wauquiez dans la perspective de 2022 est très clair, totalement assumé. Nous voulons rassembler une majorité de Français au-delà des clivages partisans.
Alors, vous avez évoqué, pour le critiquer, le diagnostic de Boris Vallaud sur l'islam en France, à l'occasion de cette tribune qu'on a évoquée tout à l'heure, d'une centaine d'intellectuels, philosophes, écrivains, etc., qui s'inquiètent de la montée donc de ce qu'ils appellent un totalitarisme qui cherche à gagner du terrain et qui essaye de se faire également passer pour victime de l'intolérance. Est-ce que ça n'est pas précisément ce que le Front National dénonce depuis des années et peut-être bien avant les autres?
Il ne fut pas le seul. Philippe de Villiers, par exemple, en parla, et quelques responsables politiques de droite et de gauche, soyons totalement honnêtes, je pense à Jean-Pierre Chevènement, pareil, par exemple, ont eu le courage, ces 20 ou 30 dernières années, de manière trop isolée, d'en parler. Aujourd'hui, cet aveuglement, cette lâcheté collective de la vieille classe politique conduisent à une explosion intolérable dans un grand nombre de quartiers français de l'islamisme radical. Et puisque la droite que nous appelons de nos voeux avec Laurent Wauquiez est une droite populaire et sociale qui protège les petits, qui protège les sans-voix, qui protège dans ces quartiers les ouvriers comme les Français musulmans qui n'en peuvent plus. Il y avait un article très intéressant ce matin dans le Figaro, par exemple, avec le témoignage de Monsieur Pupponi, l'ancien maire de Marseille, qui racontait combien Sarcelles, qui fut connu pour sa communauté juive, est aujourd'hui gangrénée et musulmane apaisée, est aujourd'hui gangrénée tout près d'une école qui s'appelle l'école Jean Jaurès, le père du socialisme à la française.
Gangrénée, d'une catastrophe annoncée.
Voilà, d'une catastrophe annoncée. Et c'est le cas, vous savez, dans tous les départements français. Personne n'ose le dire, mais disons-le. Nous ne le disons pas pour stigmatiser qui que ce soit. Nous ne stigmatisons aucun de ceux qui aiment la France. Et les Français musulmans sont autant Français, sinon parfois même plus, que vous et moi. Mais ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de place en France pour le communautarisme. Il n'y a pas de place en France pour ceux qui considèrent que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il n'y a pas de place en France pour ceux qui considèrent que dans les écoles, que dans les piscines, on peut mettre d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Le grand combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un combat que la droite a trop longtemps oublié, que nous devons porter avec détermination, avec enthousiasme, à un moment où ce combat est abîmé et dénoncé, justement, par les islamistes radicaux. Ces gens-là n'ont pas leur place sur le territoire national parce qu'ils ne respectent pas les fondements de la République et de ce qui fonde notre capacité à vivre ensemble.
Alors, Nicolas Sarkozy avait créé le CFCM, le culte musulman.
Conseil français du culte musulman.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut réformer l'islam de France. Est-ce que, sur quelle base faut-il le faire? Et est-ce que, dans le fond, ce n'est pas utopique d'avoir un culte musulman français, un islam français?
Non, je pense que c'est un grand défi, un grand pari qu'il nous faudra relever. En s'appuyant, vous savez, il faut toujours être très simple et très clair pour éviter justement et les amalgames et les lâchetés. Chacun sait qu'au milieu de ces minorités islamistes radicales avec lesquelles il nous fera faire preuve d'une fermeté absolue, vivent, parfois même survivent, une écrasante majorité de Français musulmans, patriotes, attachés à la République, fiers de leur religion, et c'est leur droit fondamental, mais qui considèrent qu'au-dessus de leur religion, il y a la France. Il y a notre histoire et nos racines. Il y a la volonté de vivre ensemble. L'organisation de l'islam de France doit avant tout être fondée et reposée sur les Français musulmans qui aiment la France. Ils sont innombrables, nous avons besoin d'eux, et c'est avec eux qu'il nous faudra imaginer l'avenir des relations nouvelles entre l'islam et la République.
On va parler un peu de social avant de se quitter. Donc journée de mobilisation jeudi pour la défense des services publics, notamment ceux de la SNCF. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réforme? Est-ce que dans le fond, vous signez tous en bas de la page sur toutes les décisions d'Emmanuel Macron?
C'est pas trop mon caractère qui est plutôt fondé sur l'impertinence. D'être aveuglé par la fraîcheur, certes attendue, et l'esprit très marketing et cosmétique du président de la République. Au Parlement, en tant que député, je vote pour ce qui va dans le bon sens de l'intérêt général et du bien commun. J'ai voté pour la loi travail, par exemple. J'attendrai d'en savoir plus sur cette réforme de la SNCF. Je vais être très franc et très clair. Une réforme du statut des cheminots, oui, mille fois oui, et Emmanuel Macron, à ce titre, a raison. J'ai deux inquiétudes fortes. Chacun sait que le drame génétique de la SNCF, c'est sa dette. 3 milliards d'euros de déficit annuel.
Et chacun sait... Vous tenez les cheminots et leur statut pour responsables de cette dette?
Non. Vous savez, moi je considère que ceux qui sont responsables, ce sont les responsables politiques qui n'ont pas eu le courage de réformer. Et donc je propose, moi, au-delà de cette réforme, que je soutiendrai pour le moment, deux amendements très clairs. Un, la réforme du statut de retraite des cheminots. Chaque Français paye chaque année 3 milliards 200 millions d'euros à la SNCF pour équilibrer le système, c'est trop.
Vous voulez les énerver encore plus, quoi.
Mais non, mais au nom de la justice sociale, oui, que j'appelle de mes vœux. Et deuxièmement, un respect complet de la France des territoires et de ce que, à tort, les Parisiens appellent les petites lignes du quotidien, qui sont pour nous, en province, les grandes lignes des travailleurs. Et je demande donc à Emmanuel Macron de débloquer les 800 millions d'euros promis par l'État aux régions de France pour permettre aux régions de France de mieux entretenir nos lignes du quotidien dont nous avons tant besoin. Emmanuel Macron a cette volonté affichée de réforme, mais hélas, il les fonde jusqu'à maintenant sur l'injustice sociale, hausse de la CSG pour nos retraités, sur l'injustice territoriale, la disparition d'un millier de classes dans des écoles rurales, et depuis aujourd'hui, on l'a appris, l'injustice familiale, puisqu'un rapport de la majorité parlementaire prône la suppression du quotient familial. Vous voyez bien que cette addition des injustices crée en France une colère qui gronde, et cette colère qui gronde et qui est en train de monter, nous devons, nous les Républicains, l'apporter et y apporter des solutions crédibles et solides.
Oui, vous parlez d'une fracture territoriale entre Paris et la province.
Incontestablement.
Notamment avec les 80 km/h, c'est un sujet qui vous met en colère, comme
oui, tant d'autres. Oui, parce que sur ce sujet-là, on veut du bon sens, on est tous attachés à la sécurité routière, mais imposer depuis Paris une limitation pour les 450 000 km de routes secondaires, ça n'a aucun sens. Nous, on propose avec Laurent Wauquiez très simplement que ce soit les présidents de département qui soient souverains pour décider en fonction de chaque tronçon quelle est la limitation à proposer.
Voilà, c'est à la fin de cette émission, si vous permettez, je vous décerne le label du passé simple. J'en ai jamais entendu autant sur un plateau de télévision depuis peut-être les années 70.
Oui, vous avez un français très châtié.
Merci et à la semaine prochaine.
Merci Guillaume Pelletier.
Merci.
À la semaine prochaine.